Bienvenue sur la POC, nouvel épisode exclusif pour nos patrons. Je vais gagner Sylvain Rioux pour vous accompagner pour les prochaines minutes pendant que Sylvain tousse.
Excusez.
Pas grave, regarde. Épisode sur les des joueurs connus pour frapper les plus durement de la Ligue nationale. On nous a demandé, un de nos patrons, hey, parlez donc des gars qui frappent fort.
Fait que c'est les ça. Péteux de gueule.
Les péteux de gueule. On a fait nos recherches, puis on en a trouvé quelques petites anecdotes savoureuses, je pense, pour vous autres. C'est parti pour cet épisode spécial pour les patrons. Vous n'êtes pas patron et vous avez finalement accès à cet épisode-là. Tard. Ben, c'est normal parce que c'est un exclusif pour les patrons. Si vous voulez les avoir dès qu'on les enregistre, ces épisodes-là, ben, c'est possible, mais il faut devenir patron à partir de 1$ patreon.com/lapoc. Sylvain, vas-y, commence avec ton premier gars qui frappe fort.
Ben, on commence-tu avec, à tout seigneur, tout honneur, avec celui qui trône en première position de toutes ces listes-là?
Ouais, vas-y.
Le grand Scott Stevens, que dans le hockey d'aujourd'hui, clairement, aurait joué 2 saisons, mais il aurait été banni à vie. Parce que c'était le roi du blindside hit. Ah, tu sais, en fait, toute la stratégie des Devils, parce qu'ils jouaient à l'époque avec Scott Niedermayer, la stratégie des Devils était clairement ça. Niedermayer t'amenait à aller couper vers le centre, et pendant que tu allais couper par le centre, Stevens arrivait, puis il te swingait ça. Attends. En plein milieu de la glace.
On s'excuse au monde qui avait des tympans et des écouteurs par-dessus. C'est terminé.
Ouais, non, mais tu sais, c'était. Ouais, ben, c'est probablement un peu ce qui se passait quand tu te faisais frapper.
Sûrement.
Par Steven. Tu voyais des étoiles, puis les oreilles te oscillaient, là. Clairement, c'était ça, là. Tu sais, on a toutes la fameuse mise en échec de Paul Kariya, là, que Kariya se coupe vers le centre de même en finale de la coupe, se fait arracher la tête, puis il tombe inerte au sol, puis la seule chose que tu vois, c'est sa respiration qui fait de la buée dans sa visière. C'est tout ce que tu vois qui te dit, OK, il est pas mort. Mm-hmm. Parce que si tu regardes la mise en échec,
tu penses qu'il est mort. Avant qu'on enregistre l'épisode, j'écoutais une vidéo, c'est un montage, ça date de l'année passée, je pense, de Sportsnet, sur les buts les plus importants de chacune des 31 formations dans leur histoire. Et le but le plus important de l'histoire des Ducks d'Anaheim, c'est le but de Paul Kariya suite à cette mise en échec-là. La mise en abîme, la place, parce que c'est en série, le fait que ça, je pense, éliminait les Devils à ce moment-là. Tout ça, là, faire en sorte que ce but-là est mythique pour l'organisation des Ducks et que cette mise en échec-là sera toujours, d'une certaine manière, mémorable.
Oui, parce que dans le fond, c'est l'année, je veux pas te reprendre, mais c'est l'année où est-ce que les Devils ont gagné la Coupe. Pas de classe.
Yes.
Non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est les Devils qui avaient fini par gagner, mais Kariya est revenu au match en overtime, puis il avait marqué un but. Tu sais, tout le monde se rappelle de ce but-là, sauf Paul Kariya.
Oui, c'est vrai.
Encore aujourd'hui, presque, c'est 15 ans plus tard, il n'y a aucun souvenir de ce but-là. Tu sais, puis il y a une certaine rancœur envers la LNH, justement, oui, de lui avoir perdu. Hey, tu sais, on a beau chialer là, contre le protocole des commotions en ce moment, là, mais c'est drôlement mieux que ce que c'était. Là. Dans ce temps-là, là, tu te faisais knocker, ils sortaient les smelling salts, là, dans les trousses de premiers soins. Ouais, il y avait toujours ça. Hein, c'était des genres de sel, mais ça sentait tellement fort. Moi, j'en ai respiré une fois, là, puis ouf! C'est comme, tu sais, ouf! Ça te recrinquait, puis encore aujourd'hui, Alex Ovechkin se fait souvent ça, là. Mm-hmm. Vous le voyez, là, qui renifle quelque chose, là, ben dans un bar à 3 heures du matin, c'est autre chose qui renifle, mais quand il est sur le banc des joueurs, c'est vraiment ça, c'est les smelling salts, c'est que ça, c'est comme tellement fort que... tu reviens, puis t'es hype top, puis let's go, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'était ça, le protocole des commotions dans ce temps-là. Tiens, essaye ça. Ouais, OK, c'est bon. OK, go, rembarque. Tu sais. Mais tu sais, Paul Carey aurait jamais dû rembarquer sa glace. Là. Aurait jamais dû rembarquer sa glace. Là, parce que tu sais, ce but-là est arrivé plus qu'une heure plus tard. Là.
Mm-hmm.
Puis, il n'y a aucun souvenir entre... T'sais, de mémoire, là, quand il en a reparlé, là, genre son premier souvenir, genre c'est genre le lendemain matin. Ou en arrivant chez eux le soir. Ou, t'sais, il a comme perdu plusieurs heures de sa vie qu'il n'a aucune idée de ce qu'il a fait. T'sais,
ben, le temps qu'il a pas envie, il y avait des caméras. Il peut.
Oui, c'est ça. T'sais, il peut le revoir, mais comme il dit, je le revois, il dit, je sais que c'est moi, mais...
Mais c'est pas moi.
C'est ça, ça me dit absolument rien. T'sais, je le revois le but, là, c'est un beau but, mais je sais que c'est moi, mais je le compute pas que c'est moi. T'sais, je me rappelle pas l'avoir vécu. Là.
Donc, c'est fou, ça.
T'sais, puis Stevens en a ramassé une coupe de même. Là. T'sais, on a juste à penser... Il avait slugué Ron Francis de même. Il a slugué Slava Kozlov. Il avait slugué Eric Lindros, évidemment. Puis je pense qu'il n'y a personne au Québec qui avait pleuré la fameuse fois. Ouais, parce que, dans le fond, là, Eric Lindros est revenu après cette mise en échec-là, mais il n'a plus jamais été Eric Lindros.
Non, c'est ça.
Il n'a plus jamais été le même.
Je me pose la question à savoir, c'est-tu vraiment le gars qui frappait le plus fort aussi? Le gars qui utilisait le mieux sa vitesse, son déplacement, tout ça et l'opportunité que la Ligue lui donnait, là, la protection qu'on lui donnait sur ce type de mise en échec-là? Parce que il utilisait le coup sur Carrier, il utilise clairement la vitesse de son adversaire. C'est pas tant lui qui va vite qu'il arrive à être dans le chemin à la bonne place, tu sais.
Ouais, ben en fait, c'était une combinaison d'un peu tout ça parce qu'il frappait vraiment fort, mais c'était le fait qu'il était capable de les timer à la perfection. Lui, le blindside hit, c'était vraiment devenu un art, là. Tu le voyais jamais arriver, là. Il l'a perfectionné au point que ça devenait un blindside parce que lui-même, il allait se placer pour te frapper dans le blindside.
Ouais.
Tu sais, fait que c'était vraiment mean, là. Puis, on va se dire les vraies choses, là. Regardez-les comme faut. C'est pas tout le temps clean. C'est presque jamais clean. Si, même en oubliant le fait que c'est blindside, que dans ce temps-là, le blindside hit existait pas. Tu sais, était pas dans le livre des règlements. Mais, souvent, il y avait plus les deux patins qui touchaient à terre. Souvent le coude était haut, souvent c'était vraiment un coup à la tête. Là.
Mm-hmm.
T'sais, si on veut, aujourd'hui qu'on veut tout enrayer ça là, dans la LNH, puis on est totalement pour ça, là, de tout enrayer ça, si tu veux donner un cours sur quoi ne pas faire, prends le montage du top 10 des plus grosses mises en échec de Scott Stevens, puis c'est exactement ça que tu dois pas faire.
Mm. Ah, tout
parce que c'était mean, ce n'était... Tu sais, à la base, une mise en échec, ça a toujours été pour séparer le porteur du disque de la rondelle. À la base, une mise en échec, c'est ça.
Tu le mets en échec. L'échec c'est du ça. Jeu, pas le...
Pas l'échec de sa vie.
Ouais, c'est ça.
Pas l'échec de sa vie.
C'est ça. Silence, là.
C'est ça. Tu sépares le joueur de la rondelle. C'est ça, la mise en échec à la base.
Hey, moi, j'ai le goût de...
Lui, c'était mean.
Ouais, non, c'est ça. J'ai le goût de reculer bien, bien loin. On est pratiquement au balbutiement de la ligne nationale. Billy Coutu. Pas le frère à Jean, là. Vous le dites tout de suite. C'est un gars de North Bay, en Ontario. Et il est connu principalement pour être le seul joueur de l'histoire de la ligne nationale à avoir été sous le coup d'une suspension à vie. C'est le seul joueur de l'histoire de la Ligue nationale.
Je pensais que c'était Happy Gilmore, moi.
Ouais, mais ça, c'était un film.
Pour avoir enlevé son patin pour stabber le gars.
Ouais. Deux anecdotes bien particulières. Premièrement, en série en 1923, je vous donne une idée de quand est-ce que c'est arrivé, là, ces affaires-là. C'est loin, 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 loin. Et il va d'une façon, il joue de façon, on dit, tellement vicieuse lors d'un match contre Ottawa que l'entraîneur du Canadien pour qui il évolue, Léo Dandurand, décide de le suspendre pour le deuxième match de la série. Il dit non, tu joues plus. La Ligue, il y avait comme une révision de la Ligue, voir s'il allait le suspendre, mais le Canadien a décidé eux-mêmes de le suspendre avant.
Hey.
Ça te donne-tu une idée?
Ouais.
L'année d'après, en 24-25, en séries éliminatoires, il est maintenant dans l'organisation des Bruins de Boston et il y a un match contre les Sénateurs, encore une fois, ça a l'air que c'est là que ça se passe. Et il initie, écoute, il commence à narguer un des arbitres, commence à en frapper un autre, jusqu'au point où les deux bancs se vident, mais pas nécessairement pour se battre entre eux autres, autant que pour arrêter le carnage avec les arbitres.
Hey, c'est les frères Hanson.
C'est peut-être une inspiration lointaine des frères Hanson. Et là, le premier...
Je raconte ça, puis c'est tout ce que...
Ben, c'est clair. Fait que là, le premier président de l'histoire de la Ligue nationale, Frank Calder, décide finalement que là, c'est assez, tête de cabochon, là. On te sort à vie de la Ligue nationale une suspension qui, finalement, ne durera pas toute sa vie parce que 2 ans plus tard, la Ligue nationale va abandonner, va laisser tomber la suspension, mais Coutu ne va jamais rejouer. Mais c'est le seul joueur qui était sous le couperet d'une suspension à vie. Là, j'ai comme... Je dis ça, là, puis j'ai un petit doute par rapport à le défenseur là, des Kings de Los Angeles qui a battu sa femme, là. Voinov?
Oui, oui.
Il est suspendu à vie ou... J'ai quand même un petit doute, là.
Je pense pas qu'il est suspendu à vie, là, mais je sais qu'il est sous le coup d'une suspension. Puis bref, il a fallu qu'il s'expatrie, là. Mais tu sais, lui, c'est totalement pas relié à son comportement sur la glace.
Non, c'est ça.
Tu sais.
En tout cas, il faudrait que je fasse la recherche là, pour la suspension sur le délai, mais j'ai comme un micro-doute par rapport à ça. Là, mais Billy Coutu, quel homme!
Billy.
Vas-y avec ton prochain, Sylvain.
Ah, mon Dieu, mon prochain... Moi, il y en a un que... Tu sais, quand on parle de séparer le porteur du disque du joueur, tout... C'était pas toujours les hits les plus spectaculaires, mais Larry Robinson, il était grand, il était gros, il était fort. Il frappait pas souvent, mais quand il frappait, tu t'en rappelais. Il y a une fameuse mise en échec, je me rappelle plus si c'était en 76 ou en 79, en finale de la Coupe Stanley. Il a gelé un des Broad Street Bullies, là. Mais il a gelé, là, comme faut, là. T'sais, un gros hip check, là. Puis la légende veut, bon, là, on rentre dans la légende, là, mais la légende veut qu'il a fallu qu'il retasse la bande parce que la bande, elle n'arrivait plus après. Mm-hmm. Tu sais, c'était à ce point-là. Tu sais, moi, Larry Robinson, je me rappelle de ce gars-là que, justement, il était fort comme un ours. Puis quand il... C'était le roi du hip check. C'était jamais la... Mais c'était toujours un coup de hanche, là. Puis, le gars... décollait, mon ami, là. Mais c'était toujours clean. C'était toujours clean. Dans les mêmes années, avec les Islanders, Denis Potvin était un défenseur complet. La partie intégrante des 4 Coupes Stanley des Islanders, là. Puis Denis Potvin était reconnu comme être un des gars qui aimait frapper puis qui donnait les plus gros hits à cette époque-là. Mm-hmm. Il était bâti comme un tank. Puis lui, c'était le open ice hip check. C'était sa spécialité. Puis c'était toujours simili blindside, sauf que lui, justement, c'était un hip check. Il n'allait pas te frapper à la tête avec son épaule ou avec le coude, là. Mais... t'en sortais pas de là moins sonné pareil. Là, parce que quand tu t'en vas sur un bord et tu te fais frapper de l'autre bord, peu importe où ce que tu vas te faire frapper, là, tes hémisphères vont... ouais, c'est ça. Tes deux hémisphères vont se cogner ensemble. Là, parce que, tu sais, c'est ça une commotion cérébrale. Là. C'est tes deux hémisphères qui se cognent puis ça te fait comme un ecchymose puis c'est ça.
T'sais, ouais, t'as comme un bleu à ton cerveau.
C'est ça. C'est comme si tu te cognes les deux genoux ensemble. Là, t'sais. Ben, tu vas avoir des bleus. Ben, pour essayer, pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi exactement une commotion, s'il y a moyen que tu tapes les deux genoux ensemble assez fort là, pour que ça fasse des bleus et que tu as de la misère à marcher, ben, imagine-toi que c'est ça qui arrive avec les deux hémisphères du cerveau.
Mm-hmm. J'y vais-tu avec mon prochain?
Vas-y donc.
OK, écoute, j'aime ça sortir des sentiers battus. On parle de ceux qui frappent le plus fort. Si on prend la catégorie des gardiens de but, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de Ron Extall comme étant le gars qui frappe le plus fort, mais juste parce qu'il est débile dans la tête. Je pense que c'est ça, là. Je pense que gestion des émotions, je pense que c'est pas suffisant. C'était pas juste ça le problème. C'était plus que ça. Des coups de bâton, des némites, c'est le gardien de but qui a établi le record du plus de pénalités, de minutes de pénalité dans une saison. 113 minutes dans une saison. À ses trois premières années dans la Ligue nationale, à chaque fois, il a cumulé plus de 100 minutes de pénalité. C'est un gardien de but!
C'est énorme, là. C'est énorme, là.
Écoute, la plus grosse anecdote, entre guillemets, c'est qu'en entraînement, Coupe Canada 87, un des gardiens de but invité par la sélection pour le camp d'entraînement, durant justement un entraînement, ça brasse.
Dans un match intra-équipe, là, intra-équipe. Avec un coéquipier, là, on va le mentionner. Là.
Ouais, il s'abrasse autour de son filet, pas d'accord, pas comptable, pogne son bâton, claque sur un avant-bras de Sylvain Turgeon, fracture du bras. Sylvain Turgeon jouera pas de la compétition, Extall non plus, mais je sais même pas, y a-tu fait de la sélection? Je pense pas, non?
Je pense que oui. Je pense que oui, mais...
Ouais, hein? Comme deuxième.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Fait que, voilà.
Mais c'était son coéquipier, là. C'est juste pour dire comment que le gars, il avait la mèche courte, là. Mm. C'était incroyable. T'sais, on a toute la même vision de Ron Extall qui veut arracher la tête de Chilios. Puis la langue sortie. Puis, tu sais, il y avait con... Il avait l'air possédé par le démon, là. Tu sais, c'était incroyable. La langue sortie puis qu'il veut aller le tuer, là. Tu sais. Mm. C'était assez incroyable. Ron Extall. Okay. On te salue bien bas.
Quelle bibitte.
Hey, qui était weird. Mm. Il était weird.
Ton prochain?
Cam Neely, des Bruins de Boston. Non seulement c'était tout un marqueur, il frappait comme un train. Là. C'était pas nécessairement le plus gros ou n'importe quoi, mais tu sais, Cam Neely, c'était la définition de power forward. Là. L'échec avant soutenu, puis c'était tough jouer contre Cam Neely. Là. Il allait te ramasser d'un coin. Gros hit à chaque fois. Là. Le gros hit que bang, les baies vitrées qui shakaient là, dans ce temps-là, puis tout là. C'était loud. Ça faisait mal jouer contre Cam Neely.
Ouais, c'en est un, ça, qui avait, tu sais, le timing, là, on parlait de tantôt.
Ah oui, totalement.
Avec la vitesse, le coup de patin que ce gars-là avait, il était en mesure de, justement, de se positionner de façon à pouvoir frapper adéquatement, puis solidement, puis c'est ça, là. Il donnait pas de chance, là.
Ouais, c'était littéralement un train, là.
Mm-hmm. T'en as-tu un autre? Moi, c'était pas mal les deux gros là, que j'avais à mentionner. Là, le reste.
J'en ai d'autres. Là. Les plus vieux vont se rappeler de Darius Kasparaitis, qui était un hard hitter, mais il était cochon aussi. Là. Ça a été un des ceux qui a donné une bonne commotion à Eric Lindros. Pendant les séries de 93, il a rendu Mario Lemieux complètement fou. Là. Il a frappé Mario Lemieux à répétition. Il n'était pas commode à jouer contre. Puis on l'a mentionné aussi, un autre qu'on a mentionné comme qui en avait reçu, mais qui a donné sa part aussi, c'est Eric Lindros. Eric Lindros, écoute, tu sais, Eric Lindros, quand il a été élu au temps de la renommée, tu sais, il y avait eu un genre de débat. Est-ce qu'il a vraiment sa place là? Tu sais, parce qu'il n'y a pas les chiffres, tu sais, il n'y a pas les chiffres les plus fous parce que sa carrière n'a pas été très longue. Même si c'est impressionnant qu'est-ce qu'il a fait dans les matchs où est-ce qu'il a joué. Mais tu sais, ce gars-là a changé le hockey. D'une autre façon, là, parce que non seulement il était dominant, tu sais, t'as eu une période là, de 2 ans à peu près là, où est-ce qu'Eric Lindros était le meilleur joueur de hockey de la planète.
Mm-hmm.
Il était dominant, il pouvait te faire mal au niveau du pointage, mais il pouvait te faire mal en allant te frapper. Là. T'sais, pis, il cherchait ça, les gros hits. Là. T'sais, il cherchait vraiment ça. C'était un gars qui faisait plusieurs enjambées avant d'aller te frapper. Puis souvent, c'était des late hits, mais bon, ça passait parce que c'était une vedette, puis whatever, tu sais, mais Lindros, il était mean, là. Il était vraiment mean. Mm. Sinon, on peut-tu parler, en terminant, de ceux qui jouent en ce moment?
Ah, ben, j'en avais un.
Go!
J'ai un gentleman de la mise en échec. Pas parce que ça faisait pas mal, mais parce que c'en est un qui a perfectionné l'aptitude de la mise en échec violente, mais légale. Sans blesser l'adversaire, mais qui faisait... Ben, sans blesser. On s'entend, là? Ça te brassait les intestins, pas pire, là. Niklas Kronwall.
Hey,
avec
ouais.
Ses coups de fesses, là, c'est...
You've been Kronwall, ouais.
Ouais, ça, là, quand l'Avalanche est apparue dans la Ligue nationale, la confrontation Avalanche contre les Red Wings, c'est dans ma jeunesse du hockey, c'est là vraiment que j'ai vraiment capoté sur le hockey, puis je tripais de regarder ces matchs-là qui s'affrontaient avant la finale, c'est la finale avant la finale, et Kronwall était l'une des pièces maîtresses des Red Wings de par justement sa présence physique et ses mises en échec, mais pas des mises en échec dans l'optique de blesser de façon sournoise, mais il optimisait sa façon de percuter l'adversaire de façon légale avec ses coups de hanche. Là, je pense pas qu'il y en ait un autre qui a perfectionné ça autant que lui.
Ouais, ben tu sais, moi j'ai parlé de Larry Robinson puis Danny Podbin un petit peu plus tôt. Là, c'était exactement ça. Là. C'était des hip checks comme ça. Là.
Mm-hmm.
C'était...
Mais moi, c'est celui qui m'a marqué. Là. Dans ma jeunesse, là, c'était le gars que tu surveillais. Quand est-ce qu'il va t'en pincer un? Là? Puis, tu sais, les gars sortaient pas sa civière. Là.
Non, mais tu sais, tu y pensais deux fois avant de repartir là, parce que sans sortir sur une civière, ça a fait mal, ça t'a shaké. Là.
Mm-hmm. C'est ça. Les intestins t'ont brassé en dedans un petit peu.
Eh oui. Peut-être que t'as changé tes bobettes.
Peut-être, oui.
Peut-être que t'as changé tes bobettes parce que...
Si t'es pas blessé, l'orgueil, du moins, en a pris un petit coup.
Oh, que oui.
D'après bon, t'avais une liste?
Ben, une liste, tu sais, on peut parler des joueurs actifs. Il y a un joueur qui fait plusieurs années. Tu sais, c'est un joueur qui est marginal, qui tire son épingle du jeu, là, mais Cal Clutterbuck a toujours été reconnu pour être un hard hitter, un gars qui frappe fort, qui est mean. C'est pas une superstar, là.
Mm-hmm.
Mais c'est un gars qui frappe fort. Là. C'est reconnu à peu près partout à travers la ligue que Cal Clutterbuck, c'est un...
Il va te faire mal.
Ouais, c'est ça, tu sais. Il y a le grand Chara, évidemment.
J'ai hésité à en parler parce que son plus grand coup, c'est, je pense, tu sais, qu'il a frappé l'imaginaire puis la tête de son... C'est sur Pacioretty. C'est... Tu sais, je me souviens, là, où est-ce que j'étais, puis de regarder la télé quand c'est survenu, là, sur le coup, puis, tu sais, le souffle te coupe, là, puis tu fais que... Hey! Je viens de vivre de quoi qui n'est pas normal. Là. Il y a peut-être un gars qui meurt là, dans ma face, en écoutant le hockey. C'est la seule fois que j'ai eu peur d'une mort en écoutant le hockey.
Ouais. Tu sais, moi, j'ai parlé un petit peu plus tôt là, de la mise en échec sur Paul Kariya. Mais tu sais, Paul Kariya, tout de suite, on voyait sa respiration sur sa visière, donc on se disait, OK, il est correct. Mais la foi de Max Pacioretty, j'ai le même souvenir que toi, là. J'ai fait comme « Oh shit, je viens de voir quelqu'un mourir sur la glace. » Parce qu'il bougeait plus, là.
Non, puis il y avait la face à côté de sa glace, fait que tu voyais pas de bruit dans sa vitre, là.
Non, puis tu voyais la... Mais c'est surtout que tu voyais la panique chez les trainers, chez les joueurs. Tu sais, une panique de même, là, c'est rare que tu vois ça, là. Tu sais, genre, la seule autre fois que j'ai vu une panique comme... Ben, en fait, il y a deux fois, mais c'était pas des gros hits, là. La fois que Trent McLeary avait reçu la rondelle dans la gorge.
Oui.
Puis qu'on avait dit faire une trachéo straight sur la glace, là. Mm-hmm. Parce qu'il mourait là. Et Clint Malarchuk qui s'était fait couper la jugulaire.
Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, mais c'est juste pour dire à quel point. Tu sais, c'est les deux autres fois où est-ce que j'ai vu ça. Puis on va s'entendre, les deux autres fois, là, c'est si ce n'est pas de la rapidité des soigneurs à poser le bon geste, ces deux gars-là sont morts. Là.
Mm.
Tu sais, Trent McLeary n'est plus capable de respirer, puis Clint Malarchuk, ben, il se vide de son sang. Là.
Mais Chara
Pacioretty, j'ai vu ça. Là.
Ouais, mais Chara Pacioretty, de cet incident-là, il y avait une intention, clairement. Je sais que le monde dit que ça va vite, puis tout, mais. Il l'a dirigé vers cette place-là avec probablement qu'il souhaitait qu'il rentre dans bande puis qu'il reverse sur le banc des joueurs et non pas le poteau entre là, mais il y avait vraiment une direction, il y avait une intention, tandis que le coup de patin en tombant,
frapper
la rondelle, c'est le gars qui s'est mal placé de timing. Tu n'as pas d'intention. Là, il y avait une intention là.
Oui, parce que si on fait l'historique de cette mise en échec-là, si on se rappelle, en tout cas, moi, je m'en rappelle, c'est la première chose qui m'avait flashé. Parce que ça, il me semble que cet incident-là, c'était en début de saison, right?
Il me semble aussi.
L'incident de Pacioretty, là, c'était comme en début de saison. En fin de saison de l'année précédente, Pacioretty où le Canadien marque un gros but.
C'est arrivé le 8 mars 2011. On est en fin de saison.
OK, donc c'était le match avant ça. Le match avant ça, Montréal gagne en overtime contre Boston. Pacioretty, sa glace, le but se score, les gars vont célébrer dans le coin, puis Chara est dans le chemin un peu, puis Pacioretty, en se rendant là, le pousse avec un petit cross-check, tu sais, comme tasse-toi, on s'en va célébrer. Chara n'a pas aimé ça. La foire a pogné, Pacioretty s'est caché un peu, puis bref. Là, le prochain match, il se passe ça. Donc, Chara voulait faire mal à Pacioretty. Mais je dirais pas que... En fait, il savait ce qu'il faisait, mais il a pas pensé aux conséquences de... Je lui donne pas l'intention de dire esti, je vais aller le tuer. Mais clairement, son intention, c'est tu vas avoir mal.
Mais c'est ça, c'est qu'il est tellement. Tu sais, quand je dis que je pense qu'il voulait, tu sais, avec la vitesse et tout, l'envoyer sur le banc des joueurs, de son équipe d'ailleurs. Mais tu sais, il y a comme une poussée, mais il est tellement à la fin du banc que.
Ah, c'est parce qu'il tient, là.
Ouais.
T'as beau dire que oui, ça arrive rapidement pis tout, là, mais ce gars-là, c'est des pros pareils, là, type des mises en échec, il y en a souvent dans ce coin-là, là. Mais lui, là, il dirige, là.
Mm-hmm.
Mais je demeure convaincu que il le dirige là pour y faire mal, mais il pense pas aux conséquences plus graves.
Ouais.
Moi, je suis sûr que dans les secondes qui ont suivi, là, Chara, il devait chier dans ses culottes. Parce qu'il a probablement réalisé qu'est-ce qu'il a fait. Tu sais, puis qu'il s'est laissé emporter, puis que ses actions ont probablement dépassé ses intentions. Donc, il voulait lui faire mal, mais il voulait pas lui faire aussi mal. Je sais pas si c'est clair qu'est-ce que je dis, là.
Pas sûr, mais en tout cas,
mais c'est ça, tu sais.
On va faire
Il voulait y faire mal, mais il voulait pas.
Il voulait pas le tuer.
Il voulait pas le tuer. C'est ça. T'sais, fait que il y a comme pas mal ça. Sinon, ben, dans les gars qui jouent en ce moment, Alex Ovechkin.
Oui, c'est vrai.
On en a parlé souvent.
Que dans les dernières années, mais...
Oui, puis c'est pour ça qu'il est devenu peut-être plus efficace. Ouais. C'est ce qui fait qu'il est encore capable de... Parce que, tu sais, il y a eu une ou deux saisons plus ordinaires. Puis, tu sais, pour Alex Ovechkin, une saison ordinaire, c'est les saisons de 35-40 buts, là. Tu sais, puis c'est à ce moment-là qu'on disait qu'il était fini, mais bref. tu sais, pour lui, c'est une saison ordinaire. Mais c'est dans ces saisons-là où est-ce qu'il y avait le plus de hits, tu sais, parce que il cherchait ça, là. Il cherchait le gros hit à faire mal. Puis, tu sais, comme de l'énergie mal placée. Tu sais. Mais encore aujourd'hui, même si il fait moins souvent, quand il fait, tu fais comme « Oh, shit! » que ça doit avoir fait mal.
Ouais, il choisit plus ses moments.
Ouais, c'est ça. T'sais, il arrive vite. Là, t'sais. Ouais. Lui, t'sais, t'en as une couple. Tu as le gros Big Buff avec les Jets. Bufflin.
Ouais.
Mais lui, c'est pas nécessairement les gros hits. Il est fort.
Ouais,
t'sais, on se rappelle là, de pas les séries de cette année, les séries de l'année d'avant. Il y a une foire qui éclate là. Puis genre, il y a deux joueurs qui sont sur un de ses joueurs. Puis Big Buff se rend.
Il pogne les deux, puis il est un.
Il ramasse les deux. Il les lève debout. Tu sais, on parle quand même de deux gars de 200 quelques livres, là. Il les lève, puis il les tient les deux à bout de bras. Tu sais? Puis il shake, puis les gars, ils ont l'air de des poupées de chiffon. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme. Tu sais, un gars qui est vraiment fort de même. Tu sais? Puis juste une mention spéciale à mon hit préféré à vie, je pense, là. Mon hit préféré à vie, que les fans du Canadien vont s'en rappeler, là. La fameuse fois que Piqué Subban a ramassé Brad Marchand.
Ouais.
C'était même plus un hip check, là, il l'a frappé dos à dos là, quasiment. Là. T'sais, comme il l'a frappé avec son ouais, dos, là, mais Marchand arrivait sur son air d'aller. Là. Oh mon Dieu, que ça a l'air difficile quand il se relève. Puis... Ah, écoute, ça, là, je l'ai regardé. Si je ne l'ai pas regardé 100 fois sur YouTube, je ne l'ai pas regardé une fois. C'est la mise en échec la plus satisfaisante de ma vie. Non seulement parce que c'est un Christy de beau check, mais parce que c'est Brad Marchand.
Eh oui, c'est ça. C'est comme comme du fromage gratiné sur le spaghetti. Hein. Ça fait du bien.
Ouais. Puis, je viens d'avoir un flash là. Putain, on va donner peut-être un scoop à nos patrons. Je viens d'avoir une idée pour notre prochain spécial pour les patrons.
Oh! De qu'est-ce que?
Les top joueurs détestables.
Ah! Intéressant.
Les pestes, là. Les pestes, les plaies.
Ouais, ouais, ouais.
Avec
non, je pense que...
en tête, là.
Je pense qu'il y a plein de sujets qu'on peut faire sur, tu sais, plus intemporel. Là, on vient d'en faire trois qui sont des, les plus, les moins, les. Mais il y en a plein des sujets dont, c'est ça, dont des trucs comme ça, les plus détestables, tu sais, qui sont plus intemporels. On va y arriver. On va être en mesure de vous fournir du stock.
Ça, oui, bon, on vous invite à nous les envoyer. Si il y a des,
vous sujets, avez des sujets
que vous voulez là, que vous dites, hey. Ça, là, ça serait cool. Ça ferait un bon podcast. Envoyez-nous-les. Puis, on va en jaser. On aime ça, jaser d'hockey.
Yes! Voilà, c'est ce qui fait le tour pour le show cette fois-ci pour les patrons. Patreon.com/lapoc à partir de 1$, vous pouvez nous aider dans cette belle aventure et recevoir ces épisodes de hors-série avant tout le monde. Voilà, parce que moi, je ne sais même pas, là, en ce moment, quand est-ce qu'on va mettre ça en ligne. On n'a pas décidé. On veut se donner de la marge de manœuvre.
Si on va les mettre. On ne sait même pas si on va les mettre un jour. Peut-être qu'ils ne seront jamais là.
Peut-être. Mais ils vont être là pour les patrons. Ça, c'est sûr.
Oui. Mais pour les pauvres, on ne sait pas.
Pour les pauvres, c'est pas. Regarde.
On ne sait pas s'ils vont être là pour le petit peuple.
Pour le petit peuple. Pas sûr. En tout cas. C'était JB Gagné, Sylvain Rioux pour cet épisode de la POC. Et on vous dit à la prochaine. Bye bye tout le monde!